Bonjour mes frères et sœurs. Je vais vous demander quelque chose. Ne pensez pas que ce soit du folklore. Je vais vous demander de vous lever. Parce que vous savez, je pense qu'il faut honorer la parole du Seigneur. Vous êtes d'accord pour qu'on prenne conscience combien c'est important de respecter la parole? Est-ce que vous croyez que c'est bien ou c'est du folklore du pasteur? Moi, je crois que c'est important. Je vous invite à prendre votre Bible et de l'ouvrir dans Philippiens au chapitre 4. Vous savez, je ne le fais pas pour vous faire lever. Moi, je suis contre tout ce tralala dans les églises. Mais c'est vraiment par souci du respect. Beaucoup de gens ne lisent pas la Bible, beaucoup de chrétiens n'ont pas la Bible. Je pense que c'est bien de l'avoir et de réaliser que cette parole, ce qu'on lit, ça ne sort pas de la bouche de l'apôtre Paul ou des assemblées de Dieu. Ce que l'on lit, ça sort de la bouche de qui? De Dieu. Vous le croyez? Philippiens chapitre 4, verset 4, verset 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, je répète, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et regardez la conséquence. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. C'est vraiment sérieux le fait de vous faire lever. Je crois que c'est la deuxième fois que je le fais depuis 33 ans que je suis pasteur. Oui, c'est pas souvent. Ça fait une fois tous les 16 ans, dans la prochaine fois. Mais enfin, on risque de le faire plus souvent. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que c'est qui est le plus important dans la phrase que je vais vous dire? Alors, conduisez bien, respectez le code de la route, et vous aurez tous vos points. C'est quoi le plus important? Et vous aurez tous vos points? Conduisez bien. Je vous dis ça, ça me veut de l'esprit comme ça. Mais c'est exactement pareil avec les choses de Dieu. Beaucoup de gens font une fixation sur la promesse ou la bénédiction et ne font pas attention au commandement qui précède la bénédiction. C'est flagrant, beaucoup de chrétiens connaissent des promesses par cœur. D'ailleurs, ils ne sont pas aidés parce que souvent, sur les signés, il n'y a que des promesses. Il y a des gens qui ont des boîtes à promesses. Les posters sont souvent remplis de promesses. Mais nous ne devrions pas faire une fixation sur la promesse. Nous devrions réfléchir à la condition qui va permettre la réalisation de cette promesse. Dans ce texte que nous venons de lire, il y a deux promesses. Philippiens, chapitre 4, verset 7. Il nous est dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées et vos cœurs en Jésus-Christ. » Alléluia. La paix de Dieu. Au verset 9, l'apôtre Paul insiste, et mes frères et sœurs, ça fait plusieurs prédications que j'accentue sur le fait que les choses de Dieu doivent être mises en pratique. Vous avez vu ce que vous avez appris, ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Pratiquez-le. Pas une question de le savoir, de le connaître par cœur, de l'avoir lu 50 000 fois, non. De le pratiquer. Regardez la conséquence. Fait la conséquence, oui. La bénédiction, là, ce n'est pas la paix de Dieu. C'est plus grand encore. Et le Dieu de paix sera avec vous. Voilà la volonté de Dieu, que vous ayez la paix et que le Dieu de paix vous accompagne. Voilà ce qu'un chrétien doit vivre. Il doit s'appliquer à cela. Et bien sûr qu'on peut parler de paix, on peut chanter des cantiques sur la paix, j'aurais pu dire à mon fils qui a fait chanter « Prends que des cantiques sur la paix », voilà, parce que c'est le sujet de ce matin, ainsi de suite. Et beaucoup de gens, ah, la paix de Dieu, c'est merveilleux, Jésus est le prince de la paix, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est plus sérieux que ça. Comme la prophétie l'a dit, c'est Jésus qui donne la paix. La paix, on l'obtient. On l'obtient en faisant certaines choses, ou on la réobtient, parce qu'on peut la perdre. Est-ce qu'on peut la perdre, la paix? Bien sûr, c'est écrit « poursuivez la paix ». Rechercher la paix. Rien que ces deux mots, ces deux verbes, indiquent que l'on peut perdre la paix. Et tout est fait pour que nous perdions la paix. Et la paix va être enlevée de la terre. Vous le savez que la paix va être enlevée de la terre? Est-ce que vous le savez? Lorsque l'Église sera enlevée, Dieu permettra que la paix soit enlevée de la terre. Vous regardez, vous observez, vous regardez les infos sur Internet ou à la télé, et vous voyez que la paix n'existe pas. Mais ce n'est rien à côté de ce qui va arriver. Je ne veux pas vous effrayer, mais c'est quand même écrit. La paix sera enlevée. Pour ceux qui l'ignorent, on va le lire quand même. C'est à l'ouverture des sceaux, c'est le début de la colère. Vous savez que nous sommes dans la grâce ce matin, 9 août 2015, c'est encore un jour de grâce. Mais cette grâce va s'achever quand l'Église sera enlevée. Au chapitre 6, c'est le début de l'ouverture des sceaux, donc c'est à partir où l'Église a été enlevée et l'Antéchrist va commencer à se démarquer, à mettre en place sa politique. On va lire l'ouverture du deuxième sceau. Apocalypse chapitre 6, verset 3. « Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. » Et regardez bien, qu'est-ce qui va se passer ?« Afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, une grande épée lui fut donnée. » C'est bien au début de la colère, vous l'avez au verset 17. « Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister ?» Donc, l'Église est épargnée de la colère, ça c'est évident, si vous connaissez la Bible, ça ne peut pas en être autrement. Donc, c'est après que l'Église sera enlevée, où véritablement, la paix sera enlevée de la terre. Bon, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Mais normalement, les chrétiens devraient avoir le plaisir d'avoir la paix. Et c'est malheureux. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas la paix. La prophétie que nous avons entendue tout à l'heure était adressée à un chrétien qui n'arrive pas à avoir la paix, eh bien parce qu'il ne le cherche pas au bon endroit. Alors, nous venons de lire ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer pour que les hommes aient la paix. N'oubliez pas que Paul est en prison. Et je vous encourage à lire cette épître, cette semaine, de lire toutes les fois où nous voyons combien cet homme parle de joie. Il est en prison, pas parce qu'il a commis un méfait, il est en prison parce qu'il a prêché l'évangile. Et pourtant, il n'arrête pas d'exprimer la joie du Seigneur. Il est bien dit, alors il faut méditer ce texte, je ne sais pas si on aura le temps de tout faire, mais regardez bien, la première chose qui est dite, réjouissez-vous en regardant les infos. C'est ça qui est dit? Non? Non mais est-ce qu'on peut se réjouir en regardant les infos? Ben non. Quand on regarde les infos, on peut que s'attrister. Et c'est normal. La joie, elle ne peut pas être dans les choses que nous observons, même s'il y a des choses joyeuses. Et je pense que Dieu permet, dans notre vie, que certaines choses nous procurent de la joie. Choses humaines, hein? Oui ou non? Il y a des choses qui procurent de la joie. Mais le commandement, il est clair. Mes frères et sœurs, ce sont des commandements. Ce ne sont pas des suggestions facultatives, ce ne sont pas des petits conseils à prendre à par-dessus l'épaule. Ce sont des commandements. Je sais très bien qu'aujourd'hui dans les églises, on veut plus entendre parler de l'évangile de la prospérité que des commandements du Seigneur. L'évangile de la prospérité, c'est diabolique. Je pèse mes mots, c'est diabolique. Par contre, respecter les commandements, c'est un grand bienfait. Et quand Dieu donne un commandement, il faut y réfléchir. C'est sérieux. Si le Seigneur dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », en plus, Paul dit « Je le répète, réjouissez-vous », c'est pour qu'on comprenne bien que c'est important. « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je l'ai dit, les choses de la terre ne nous réjouiront pas beaucoup et nous réjouirons de moins en moins, mais il n'empêche qu'il faut savoir faire la part des choses, et si Dieu dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je pense qu'il y a de quoi se réjouir dans les choses du Seigneur, oui ou non ? Vous croyez qu'on pourrait ce matin émunérer toutes les joies que l'on peut trouver en Dieu ? Est-ce que c'est possible ? Moi, je ne pense pas. On ne ferait qu'effleurer, même si on prenait toute la journée jusqu'à minuit, on ne ferait qu'effleurer quelques-uns de ses bienfaits. Et vous savez que c'est vrai. Et si Dieu dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je dois m'appliquer à le faire. Comment vous le faites ? Vous le faites le dimanche parce que c'est le lieu du culte, donc on chante « Oh, quel bonheur de le connaître ». Est-ce que vous avez aimé chanter ce vieux cantique ? Est-ce que vous l'avez chanté de tout votre cœur ? Vous l'avez chanté ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai, « Oh, quel bonheur de le connaître ». Bon, c'est vrai là, de 9h30 à 11h30, ou c'est vrai tout le temps ? Vous savez, mes frères et sœurs, le diable, il est rusé. Et il sait ce qui peut nous planter. Il sait ce qui peut nous détourner, ce qui peut nous éloigner, ce qui peut nous faire chuter, tomber. C'est pas pour rien qu'il est dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et si nous commençons à filtrer, à rejeter certains commandements, nous allons nous faire avoir. Si Dieu dit par un homme qui est en prison, et les prisons de l'époque, ce n'était pas les prisons d'aujourd'hui. Même si on se plaint aujourd'hui des conditions, laissez-moi vous dire, ce n'était pas les mêmes prisons. L'apôtre Paul, il est en communion avec Dieu. Il vit quelque chose avec Dieu. Parce que ce qu'il dit là, il le vit. Vous le croyez qu'il le vivait, Paul, ou que c'était un prédicateur juste de faire des sermons, blablabla. Regardez quand il est en prison ailleurs. C'est dans les Actes. Dans le livre des Actes, au chapitre 16. Oui, 16. Il est emprisonné, il a prêché l'évangile, ça n'a pas plu à tout le monde, on l'a tabassé, on l'a chargé de coups, on l'emprisonne, on l'attache, il est chargé de plaies, la preuve c'est qu'on le voit après, on lui lave ses plaies. Pourquoi ? Parce qu'il a prêché l'évangile. Il est mis dans une prison intérieure, c'est-à-dire une prison où il n'y a pas de fenêtre. Il est à l'intérieur comme dans une cave, dans l'humidité, attaché, blessé. Qu'est-ce qu'il fait ? Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Il le faisait assez fort, je pense, et les prisonniers les entendaient. Il était en train de vivre. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait Dieu. Il n'était pas en train de râler parce qu'il y avait une épreuve et je ne comprends pas pourquoi je traverse cette épreuve et j'en ai marre. On entend les chrétiens, moi j'entends souvent les chrétiens dire j'en ai marre. Ils devraient apprendre à se réjouir dans le Seigneur. Vous croyez que Dieu fait les choses n'importe comment ? Vous croyez que Dieu... Sérieusement, est-ce que vous croyez que Dieu peut se moquer d'un de ses enfants ? Sérieusement. Vous croyez que Dieu joue avec nos nerfs ? Le résultat, regardez avec moi dans Thessaloniciens. Parce qu'il faut regarder les conséquences d'obéir à un commandement. Et ils ne l'ont pas fait pour frimer. Ils l'ont fait parce qu'ils connaissaient Dieu. C'était quand même grave, quand même, non ? Regardez ce qu'il dit, quelque temps après, lorsqu'il écrit à d'autres chrétiens. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Parce que ce n'est pas le fait, vous allez me dire, oui, me réjouir, à quoi ça sert ? Mais regardez. Non seulement Dieu est intervenu, mais regardez ce qui s'est passé. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1er. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Regardez bien. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, donc il fait allusion à ce qu'on vient de lire. Comme vous le savez, qu'est-ce qui se passe ? Regardez bien. Nous avons pris de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Dans l'épreuve, la souffrance, les combats, ils connaissent Dieu. Mais pourquoi Paul et Silas connaissaient Dieu? Mais parce qu'ils lui faisaient confiance. Et mes frères et sœurs, je ne sais pas à quoi vous aspirez. Vous avez peut-être envie de gagner des âmes. Est-ce que vous aimeriez convertir les gens? Est-ce que vous aimeriez convertir les gens? Est-ce que vous aimeriez convertir les gens? Ah non, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut convertir les gens? Non. Est-ce que Jésus a dit vous êtes des convertisseurs? Non. Il a dit vous êtes mes témoins. Alors, le problème, c'est que les gens essaient de convertir les autres. Alors là, on fait l'effet contraire, parce qu'on rend un mauvais témoignage. Par contre, lorsque l'on vit certaines choses, on est vraiment un témoin. Et l'apôtre Paul, dans la prison, se réjouissait. Et Dieu est intervenu à Éphèse, quand il est à Philippe, pas Philippe, quand, je pense en prison, quand il est à Éphèse, le Seigneur n'intervient pas de la même manière, mais il intervient. Et vous vous rendez compte, 2000 ans après, nous sommes au bénéfice d'un homme qui vivait ce qu'il prêchait. La preuve, c'est qu'il a écrit une lettre en prison qui a été utilisé par le Saint-Esprit pour être dans le canon des Écritures. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça vous prouve la bénédiction de prendre au sérieux les choses. Le problème, c'est que les chrétiens, ils écoutent des sermons, ils veulent entendre un beau sermon. Oh, inspire notre pasteur qui a un beau sermon. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? La question que nous devrions nous poser, suite à la lecture que nous venons de faire, parce qu'on ne va pas tout voir, ça ne sera pas possible, est-ce que vraiment je me réjouis dans le Seigneur? Si vous ne vous réjouissez pas, c'est peut-être parce que vous ne le connaissez pas, ou que vous ne le connaissez pas assez, ou parce que vous êtes attiré par les artifices du diable, qui vous détournent de la beauté de Christ, de la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu dit qu'on peut se réjouir dans le Seigneur, c'est qu'il y a de quoi se réjouir. Et vous prenez n'importe quel texte de la Bible, et je peux vous dire qu'il y a de quoi vous réjouir dans la grâce de Dieu. Je le répète, réjouissez-vous. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour se réjouir dans le Seigneur? Tiens, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Il faut répéter en boucle, je me réjouis dans le Seigneur, je me réjouis dans le Seigneur. Monsieur Gros, j'ai répété toute la semaine, je me réjouis dans le Seigneur, je me réjouis dans le Seigneur, je me réjouis dans le Seigneur. Non mais attendez, je pense que là on tombe un petit peu dans la maladie. Se réjouir dans le Seigneur, c'est dire, mais je le connais, il ne me fera pas défaut. Oui, je suis dans l'épreuve. Seigneur, je te loue, je t'adore. Pas d'une manière mécanique et bête, même intellectuelle, d'une manière réelle. Seigneur, je peux me réjouir dans le Seigneur. Et nous pourrions multiplier les exemples. Et en plus, Dieu aime. Dieu aime. Juste après, il est parlé de prière et d'action de grâce. Mais Dieu aime qu'on lui offre des actions de grâce. Il y a un verset qui me vient à l'esprit dans le psaume 50. Si je ne me trompe pas, on va le lire. Alors des versets comme ça, il y en a en foule dans la Bible. Regardez avec moi dans le psaume 50. Parce que quand même, il y a des choses qui génèrent la vie, qui génèrent la bénédiction. Dans le psaume 50, regardez le verset 23. C'est quelque chose qui plaît à Dieu. Tout le long de la parole de Dieu, Dieu il aime. Bien sûr, pas qu'on le fasse avec la tête. Qu'on le fasse avec le cœur. Regardez, psaume 50, verset 23. « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, qu'est-ce qu'il fait ? Il me glorifie. » Quand vous dites « Seigneur, merci », bien sûr, si vous le faites mécaniquement, ça n'a plus aucun sens. C'est ça la religion. Et c'est ça qui dégoûte les gens. Mais quand vous le faites de tout votre cœur, la Bible dit que celui qui offre des actions de grâce, il le glorifie. Alors vous l'avez fait à haute voix, vous l'avez fait dans votre cœur, vous l'avez fait au travers des cantiques. La forme, ce n'est pas grave la forme. Il y a des gens qu'on n'entend jamais prier. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave quand si vous ne levez pas la voix dans l'église? Mais non, ce qui est important, c'est que tout ce qui est fait, on le fasse de bon cœur. Regardez dans l'Épître aux Hébreux. C'est important mes frères et sœurs, les actions de grâce, mais prenez la Bible, relisez la Bible à partir de la Genèse et recensez tous les versets où il nous est dit que Dieu prend plaisir à cela. Regardez Hébreux. Dans Hébreux, il nous est dit la façon dont on doit offrir un culte à Dieu. Et le culte, ce n'est pas que le dimanche matin, c'est une vie qui est consacrée à Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 28. Comment vous montrez votre reconnaissance à Dieu? Est-ce que vous la lui montrez votre reconnaissance? Oui. Ah oui, c'est important ça. Hébreux chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte. Alors, comment ? Un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Verset 15 du chapitre 13. Par lui, donc par Jésus-Christ, offrons sans cesse, c'est pas le dimanche ça, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Alors c'est quoi ? Eh bien c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Voilà, Dieu prend plaisir lorsque vous lui dites merci. Vous le faites ? Dieu prend plaisir. Quand vous le faites, bien sûr, de tout votre cœur. Si tout à l'heure, bon, il faut rendre grâce. Tu rends grâce, ma chérie ? Oui, je rends grâce. Seigneur, nous te remercions pour ce bon repas que tu nous donnes chaque jour. Si c'est fait parce qu'il faut le faire, ça n'a aucun sens. D'aucun sens. Quand Dieu dit qu'il prend plaisir, c'est quand vraiment vous lui dites merci. Que ça sort de vos tripes, que ça sort de votre cœur. C'est vrai, c'est sincère. Et c'est la condition pour avoir la paix. J'ai un verset qui me vient à l'esprit, on va le lire, c'est Ésaïe 26. Dans Ésaïe 26, il y a un texte qui montre cette importance d'être ferme dans ces choses. Ésaïe 26. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. Moi, je suis peiné de voir tant de chrétiens qui se traînent, excusez-moi l'expression, comme des misérables parce qu'ils n'ont pas pris la décision d'être fermes dans leurs sentiments, comme on va le lire maintenant. Ce n'est pas normal qu'on ait des moments de blues. Est-ce que ça peut arriver d'avoir un moment de blues ? Ça peut arriver. Mais bien sûr, 5 minutes de cafard, ça peut arriver à tout le monde. 5 minutes de tristesse. Est-ce que c'est normal qu'on soit triste aussi ? Bien sûr, on va le voir. Ésaïe 26. Mais mes frères et sœurs, ça sort de la bouche de Dieu. C'est une des raisons pour laquelle je vous ai demandé de vous lever. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas les assemblées de Dieu. Ça sort de la bouche du Seigneur Dieu lui-même, ces choses. Vous croyez que la Bible est inspirée ? Alors c'est sérieux. Regardez, Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Qu'est-ce que Dieu fait ? Tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Mes frères et sœurs, bien sûr, je sais que le diable, il fait tout pour nous faire perdre la paix. Parce que quelqu'un qui perd la paix, il va la chercher ailleurs. Quelqu'un qui perd la joie, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va la chercher ailleurs. On a besoin de joie. On a besoin de paix. Même si la paix, personne ne peut nous la donner, si le monde peut-être d'une manière un peu éphémère, superficielle, sporadique. Oui, je pense que les choses du monde peuvent procurer une certaine paix. Mais la paix profonde du pardon des péchés, il n'y a que Jésus qui peut nous la donner. Alors c'est vrai, soyons équilibrés. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Quelqu'un, un petit peu d'expéditif, va dire, ouais, mais c'est facile de dire ça. Non, ce n'est pas facile. Tout est sérieux. Parce que de notre côté, c'est vrai qu'il y a aussi des tristesses. Vous lirez l'Épître. Et vous verrez que l'apôtre Paul a beaucoup de joie dans cet épître, mais aussi, il a de la tristesse. Regardez verset 27 du chapitre 2. C'est important parce que la vie, elle est faite de paradoxes également. Et c'est bien. Est-ce qu'il y a un temps pour rire ? Est-ce qu'il y a un temps pour rire ? Est-ce qu'il y a un temps pour pleurer ? Mais voilà. Regardez Paul, il parle que de la joie. Vous lirez, je vous demande s'il vous plaît de le faire. Et vous noterez toutes les fois où Paul parle de joie. Mais regardez en même temps, Philippiens chapitre 2, verset 27, il parle d'Épaphrodite. Et il dit, mais il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas, qu'est-ce qu'il dit ? Tristesse sur tristesse. Ah ? Mais qu'est-ce que c'est ça ? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ? Et l'apôtre Paul, il a tristesse sur tristesse ? Mais qu'est-ce que c'est ça ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que notre cœur, c'est un peu comme une pièce de monnaie. Il y a deux côtés. Il y a un côté où vraiment on ne peut que se réjouir, parce qu'on appartient à Dieu. On l'aime, il nous a sauvés. On sait que si on doit partir, c'est un bienfait. Oui ou non ? Mais de notre côté, il y a de la tristesse. Regardez un peu avant. C'est important ça, parce que il faut être intelligent, mes frères et sœurs. Il faut comprendre que l'on peut se réjouir dans le Seigneur tout en ayant de la tristesse. Est-ce que vous le comprenez ça ? Regardez Paul. C'est lui qui a dit « Réjouissez-vous toujours ». Et pourtant, Romains, regardez, Romains chapitre 10, je pense que c'est. Romains chapitre 10, regardez ce qu'il dit. D'ailleurs, c'est pour ça. Vous savez, les détracteurs, les gens qui prennent la Bible pour dire « Voilà, c'est pas inspiré, ils se contredisent. » Voilà, ils ont utilisé des textes comme ça. Parce qu'ils n'ont pas compris. Romains chapitre 9, verset 2. Romains chapitre 9, verset 2. J'éprouve une grande tristesse. Vous vous rendez compte? Et j'ai dans le cœur un chagrin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Réjouissez-vous toujours? Et un peu plus haut, il dit, j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Eh bien, parce que je vous dis, notre vie, elle a deux faces. Cette face où notre vie est liée à la communion avec Dieu et l'autre côté où nous voyons les choses qui se passent. Et nous devons les déposer. Il n'y a pas de quoi avoir de la tristesse quand on sait que Jésus va enlever l'Église et que dans nos familles, on sait qu'il y a des membres qui sont rétrogrades ou qui sont perdus. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Vous me suivez? Mais il faut arriver à concilier les deux. Cette tristesse, elle peut y être. Elle doit y être. Mais vous allez dire, qu'est-ce qu'il raconte ce matin? Et elle doit y être. Parce qu'elle prouve que nous sommes sensibles au fardeau. Il y en a des fardeaux. Quelqu'un vous dira, moi, j'ai jamais de tristesse. Moi, les problèmes des autres, j'en ai rien à faire. Est-ce que ça, c'est ça, la Bible? Non. Si vous en êtes là, c'est pas bien. C'est tout à fait normal d'avoir des fardeaux. Vous avez peut-être le fardeau de Monsieur Dupont. Il est perdu, ou de Madame Untel. Cette personne, je l'aime beaucoup, elle est perdue, elle se moque de Dieu. Et vous allez peut-être dans la journée penser à elle 50 fois. Est-ce que ça peut arriver de penser à une personne 50 fois, à part quand on est amoureux? Est-ce que ça peut arriver? Ben oui. Est-ce que ça peut arriver de penser à un homme, à une personne qui est perdue 20 fois dans la journée? Oui. Et ça nous provoque de la tristesse. Eh bien, 21 fois, Seigneur, je te prie pour cette personne, sauve-la. Quand il y a des fardeaux, quand il y a de la tristesse, c'est pas pour qu'on se fasse écraser par la tristesse, c'est pour qu'on apprenne à le déposer. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. C'est un commandement. Vous lui faites confiance? Franchement, est-ce que vous lui faites confiance au Seigneur? Si vous le connaissez, plus vous le connaîtrez, c'est imparable ça, plus vous le connaîtrez, plus vous lui ferez confiance. C'est pas possible autrement. Et moins vous le connaîtrez, moins vous lui ferez confiance. Moins vous le connaîtrez, plus vous douterez. Et c'est le départ du rétrogradage. C'est pas plus compliqué. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui, il y a de la tristesse. Et cette tristesse, je la dépose. Ces fardeaux, je les dépose. C'est ce qui est écrit après. Bon, que votre douceur soit connue de tous les hommes, c'est important. Ça parle du fruit de l'esprit. C'est pas toujours facile, peut-être. Mais je crois qu'on doit s'appliquer à procurer la douceur. C'est demandé. On a besoin de douceur. Dans une famille, est-ce qu'on a besoin de douceur? Ben oui. Entre nous, on a besoin de douceur. Oui ou non? Ben oui. Si le Seigneur le dit, c'est que c'est important. Le Seigneur est proche. Alors, le Seigneur est proche, dans le grec, ça veut dire qu'il est à portée de main. Il est là. Il est là. Quand vous priez, vous savez que Dieu est là. Vous le sentez, vous ne le sentez pas, ça n'a aucune importance. Ne vous inquiétez de rien. Je ne sais pas combien de fois j'ai dû dire ça ici, depuis 17 ans. Ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez de rien. Qui c'est qui l'a dit aussi dans le sermon sur la montagne? C'est Jésus. Ne vous inquiétez de rien. C'est pas moi. C'est pas une invitation à l'irresponsabilité. Ne vous inquiétez de rien, ce n'est pas une façon de dire, voilà, je suis irresponsable. Non, c'est une invitation à la foi. Ne vous inquiétez de rien, c'est pas pour nous faire devenir irresponsables. C'est pour nous faire comprendre qu'il y a un Dieu qui a promis de s'occuper de tout, en toute chose. Faites connaître vos besoins à Dieu. Alors des prières, parce qu'il y a des besoins, ça suffit de prier. Seigneur bénis Monsieur Untel. Il y en a, c'est des supplications, parce que ça nous touche de près. Oui ou non? Il n'y a pas des situations qui vous touchent de près? Vous voyez, et c'est pour ça qu'il faut être vrai. Si on me dit, voilà, il faut prier pour l'église dans la province d'Orissa, en Inde, qui est persécutée. Bon, je vais prier pour les chrétiens qui sont dans cette province, ou au nord de l'Inde, où ils sont persécutés. Bon, mais je vais le faire avec prière. Si c'est ma fille qui est malade, ben peut-être que je vais le faire avec supplication. Oui ou non? Parce que ça me touche. Il faut être vrai aussi. Avec des actions de grâce. C'est important, les actions de grâce. Seigneur, je te prie, tu vois, pour les chrétiens de Rissa, merci, merci. Parce que je crois que tu prends soin d'eux. Il le fera. Ce sont des commandements, mes frères et sœurs. Et ne vous amusez pas à les discuter. Vous demanderez à Ève ce qui se passe quand on commence à discuter les commandements avec ce genre de paroles. Dieu a-t-il réellement dit? Vous allez voir comment ça paye. Dieu l'a dit. C'est sérieux. Si Dieu dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », eh bien je me réjouis. Et le matin, je dois me lever avec cette détermination. Quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites? Tiens, je suis curieux. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous levez? À part vous faire chauffer un café, bon d'accord. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous levez? Qu'est-ce que vous faites? Oui, qu'est-ce que vous faites? Quelle est la première chose que vous faites quand vous vous réveillez? Moi, la première chose que je fais, je dis merci. Merci. Est-ce que c'est bien? Mais je vous assure, je le fais de tout mon cœur. Je dis merci Seigneur. Est-ce que Dieu aime ça? Eh oui. Merci. Alors, vous allez rire, mais ça ne fait rien. Ça m'est égal. Je vais faire pipi. Non, mais écoutez bien, vous allez moins rire. Est-ce que c'est une grâce? Moi, vous savez, je vais souvent dans les hôpitaux. Et j'ai vu des chrétiens, pas des chrétiens, des inconvertis souvent, qui ont les sphincters qui ne marchent pas. Mais moi, j'ai vu un homme mourir de ça. Et ça m'a fait pitié. J'ai demandé à l'infirmière, mais qu'est-ce qu'il a cet homme? Il a les sphincters qui ne marchent pas. Et il est mort le lendemain. Et bien sûr que ce n'est peut-être pas évident de le dire, mais écoutez, vous me connaissez. C'est une grâce de pouvoir faire pipi. Ça vous fait rire? Mais moi, je vous dis que c'est vrai. Demain matin, vous passerez à moi. Mais mes frères et sœurs, je suis sérieux. On peut dire merci pour tous les bienfaits. Tous les bienfaits. Et si vous vous réveillez avec quelque chose de mondain, moi, ça m'arrive des fois. L'autre fois, je peux vous dire quelque chose? Vous me garderez? Il n'y a pas tout le conseil, c'est bon, ils ne seront pas là. L'autre jour, je regardais le ciel. J'aime regarder le ciel, les constellations, tout ça. Et je regardais la lune. Et j'ai pensé à une chanson de Johnny Hallyday. Mais écoutez bien, que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Retiens la nuit. Et le matin, il y en a qui la connaissent. Je me suis réveillé avec cette chanson. Et je dis c'est pas possible. Et je me suis imposé un cantique. Je savais très bien qu'une chanson quand elle vient dans la tête, elle peut rester une heure, deux heures, trois heures. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et c'est pour ça qu'il nous est demandé d'amener toutes nos pensées captives. C'est à nous d'obéir. C'est nous qui devons contrôler nos pensées. Ce n'est pas à nos pensées à nous contrôler. Et c'est ça qui fait que les chrétiens sont en vrac. C'est à nous de contrôler nos pensées. Il y a plein de choses du monde qui peuvent nous envahir. On est sur la terre. Quand Jésus lavait les pieds aux apôtres, c'était bien pour indiquer que quand notre marche, on se salit, on se souille et qu'on a besoin les uns les autres de se laver. Mais entre se salir les pieds et se salir entièrement, c'est autre chose. D'ailleurs, le reste, on avance. Bon, la paix de Dieu, c'est bien d'avoir la paix de Dieu. Mais c'est dommage d'avoir la paix de Dieu que quand on prie. C'est pas vrai? Il y a des gens, ils sont bien quand ils prient. Il y a des gens, ils sont bien à l'église. Il y a des gens, ils sont bien à la réunion. Quand ils lisent leur Bible. Non! Il faut être bien tout le temps. Et la paix de Dieu... La suite, du verset 8 au verset 9, ça continue, non pas pour que la paix de Dieu nous soit donnée, pour que Dieu lui-même nous accompagne. Ça vous intéresse que Dieu vous accompagne? Tous les jours? Tout le temps? Est-ce que ça vous intéresse? Mais c'est ça qu'il nous faut. C'est ça que Dieu veut. Et le diable, il sait que si nous vivons ces choses, Dieu sera avec nous. Et si nous ne les vivons pas, eh bien nous nous en éloignerons, même si ça ne joue pas sur le salut. Je le sais très bien, ce n'est pas une question de salut, c'est une question d'assurance. D'assurance, comme Paul voyait en prison, nous avons pris de l'assurance à Philippe. Ce n'était pas facile ce qu'il vivait. Si demain vous vous retrouviez dans un pays étranger, dans une prison, sans avoir la possibilité d'avoir recours, parce qu'aujourd'hui on peut faire recours, mais n'oubliez pas que là, ça ne servait à rien. mais il connaissait Dieu. Et regardez ce qu'il dit, on va le relire s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez que Dieu soit avec vous? Est-ce que vous voulez avoir cette assurance que Dieu... Bien sûr, mais Dieu est avec nous, il est partout. Mais c'est vrai, en plus on ne peut pas le fuir, il est partout. Oui ou non? Est-ce que Dieu est partout? Dieu, il est omniprésent. Mais vous comprenez bien la différence entre le fait que Dieu est omniprésent et le fait que la grâce et la paix de Dieu nous accompagnent tous les jours de notre vie parce qu'il y a quelque chose qui est vécu. D'ailleurs, Paul le dit, mais ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez reçu, pratiquez-le. Ces choses-là, il ne faut pas dire, c'est bien, ça tient debout, tout ce qu'il a dit, c'est bien construit. Mais on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est que vous disiez, voilà, je vais apprendre à me réjouir, je vais apprendre à faire confiance, à ne plus m'inquiéter. Le verset 8 et le verset 9, je ne les ai jamais médités. Eh bien, on va les lire de nouveau, s'il vous plaît. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, quand je commence à dire, oui, je ne sais pas si Dieu m'entend, monsieur Gaud, je prie, mais je ne sais pas si Dieu m'entend, je suis fatigué en ce moment. Alors, est-ce que quand vous êtes fatigué, Dieu vous entend? Est-ce qu'il est dit dans le Notre Père, quand tu pries, entre dans ta chambre, si tu es fatigué, Dieu ne t'entend pas. Par contre, si tu es en forme, Dieu t'entend. Est-ce que c'est comme ça que c'est écrit? Ce qui est vrai, ce que Jésus a dit, c'est la vérité. Quand tu entres dans ta chambre, dans ta voiture, où tu veux, quand tu pries, Dieu te voit et il t'entend. Vous entendez? Ce qui est vrai, mes frères et soeurs, mais moi je suis malheureux, je vous le dis. Oui, je suis très heureux, et en même temps je suis malheureux quand je vois la quantité de chrétiens qui rétrogradent, parce qu'ils sont tout le temps très... Mais je le sais, je reçois assez de mails, de courriers, de coups de téléphone. Monsieur Gou, est-ce que vous croyez que... Mais il y a combien que vous êtes converti? Ça fait 20 ans. Mais moi, ça me désole. Alors, je ne veux pas juger. C'est vrai que c'est peut-être mon défaut. Mais quand même, ce que Dieu a dit, il l'a dit. Il l'a dit. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est... Mes frères et sœurs, on pourrait passer tout le temps, restant du culte, tout le restant de la journée, à prendre en considération ce qui est vrai. Mes frères et sœurs, soyez sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux, Dieu s'éloignera. Enfin, ce n'est pas Dieu qui s'éloignera. C'est vous qui vous éloignerez. Parce que ce n'est pas le but de Dieu de s'éloigner de nous. Ce qui est honorable, tiens donc, on a parlé tout à l'heure de l'importance d'honorer ses parents. Combien de chrétiens, même adultes, parce que ce n'est pas parce qu'on est adulte, si on a toujours nos parents, ça tient toujours. Est-ce que c'est important d'honorer ses parents? Ma mère, elle est folle. Ma mère, c'est une pauvre folle. Mes frères et sœurs, tu honoreras ton père et ta mère. Et ça vaut la peine de lire dans la Bible, tiens, tous les textes où il est parlé d'honorer le roi. On n'a pas de roi. Mais peut-être, moi le président, moi j'ai du mal. Hein? Mais je prie tous les jours pour M. Hollande. Mais j'ai du mal. Hein? Parce que c'est un homme qui n'a pas amené la bénédiction sur le pays. Il a amené le mal. Et je pèse mes mots, c'est la vérité. Mais quand même, la Bible dit de prier pour ceux qui nous gouvernent. Oui ou non? Eh bien, honorez-les. Honorez-les, ça ne veut pas dire qu'on va leur faire des courbettes. C'est sûr que ce n'est pas ça. Mais quand vous dites, Seigneur, je te prie pour le président qui nous dirige, pour M. Valls, pour M. Cazeneuve, pour M. Le Foll et tous les ministres à la suite, eh bien, c'est ça, honoré. C'est écrit d'avant toute chose de prier pour ceux qui nous gouvernent. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que vous l'avez fait cette semaine? Voilà ce qui est honorable. Bien sûr que moi, la politique actuelle, elle me dégoûte. Mais il n'empêche que Dieu me demande, avant toute chose, de prier pour ceux qui nous gouvernent. Que ce qui est honorable, prenez une concordance. Vous prenez le mot honoré, honneur, et vous verrez. Et vous verrez d'honorer les serviteurs de Dieu. Mais ici, vous le faites. Merci. Merci. Du fond du cœur. Et je me sens honoré. Mais combien de chrétiens parlent mal de leur pasteur? Ici, c'est vrai. Je suis heureux. D'ailleurs, vous voyez, aujourd'hui, je suis en congé. Toute la semaine, j'étais en congé et j'ai décidé de venir pour le plaisir de venir. Vraiment. C'est ma joie de servir Dieu, entre guillemets, bénévolement. Avec mon époux, toute cette semaine, on a servi le Seigneur bénévolement. Ben, certainement, c'est parce que vous m'avez honoré et je suis bien avec vous. Mais quand je vois combien certains chrétiens parlent de leur pasteur, même s'ils ont des raisons valables de dire certaines choses, le diable le sait. Est-ce que c'est écrit d'honorer les serviteurs de Dieu? Ben oui. Comment faire? En me faisant un gros bisou à la fin? Ou en priant tous les jours, Seigneur, garde notre pasteur? C'est ça. Que ce qui est vrai, que ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tiens donc tout ce qui est juste. Ah, mais moi je suis juste, monsieur Gaud, je suis justifié par le sang du Seigneur. Je ne parle pas de la justification. Là aussi, il y aurait un gros discours à faire sur ce qui est juste. Ce qui est juste, on chante en boucle, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Mais je peux vous dire qu'on est loin de le vivre. Ce qui est juste, quand vous voyez, c'est un truc de fou, toutes les promesses qui sont reliées aux gars, aux chrétiens, qui pratiquent la justice. Parce que la justification, c'est le fait d'avoir accepté Jésus comme sauveur. Son sang m'a lavé, je suis justifié. Gloire à Dieu. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur, vous êtes justifié. Le sang de Jésus vous couvre, vous êtes sauvé. Point. Mais c'est autre chose que de pratiquer la justice. De pratiquer la justice, c'est-à-dire, je fais ce que Dieu demande. Tu me demandes d'honorer ceux qui nous gouvernent. Ben je le fais. La justice, mais j'aimerais que vous preniez une concordance. Regardez avec moi, il y a un texte que j'aimerais lire, je crois que je l'ai noté, c'est dans le Proverbe 28. Non, c'est pas 28, c'est où c'est pas loin, je sais. Oui, Proverbe 21, verset 15. J'aimerais que vous preniez le temps, preniez une concordance, et que vous regardiez tous les textes sur la bénédiction de pratiquer la justice, c'est-à-dire de vivre les choses. Proverbe chapitre 21, verset 15. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice. Je fais ce que Dieu me demande. Vous comprenez bien que ce n'est pas parce que je fais quelque chose que je pratique la justice. Je prends un exemple. Vous allez vite le comprendre avec le psaume 51. Je chante dans l'église. Je sers Dieu. Est-ce que c'est bien? Je suis chantre dans l'église, j'ai mon service, je suis prédicateur, je prêche. Est-ce que c'est pour ça que je pratique la justice? Ben non. Là, je sers Dieu. Est-ce que je peux servir Dieu tout en étant dans le péché? Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Je peux prêcher et vivre dans l'adultère. Oui ou non? Je peux prêcher et vivre dans le mensonge. Bon, ça ne tiendra pas longtemps, mais ça, je peux le faire. Dans le psaume 51... On voit David qui exprime tout son besoin de pardon. Et à la fin, il va dire quelque chose de très, très, très intéressant. Parce que laissez-moi vous dire que pendant le temps où il a péché, il offrait des sacrifices. On peut offrir des sacrifices. Mais regardez bien ce qu'il dit. Regardez bien, mes frères et sœurs. Verset 18. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors, regardez bien ce qui est écrit. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice. C'est une chose d'offrir un bouc, un taureau. C'est une chose de faire quelque chose pour Dieu. Ça n'est une autre d'obéir. Et les sacrifices de justice, ce sont les gens qui obéissent à Dieu. Dieu l'a dit, je le fais. Alléluia. C'est ça, pratiquer la justice. Et il est écrit dans Actes chapitre 10, je crois verset quelques. Il est dit qu'en toute nation, que celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Et ils sont nombreux, tous les textes qui nous aient parlé de la justice. De pratiquer ce qui est juste. Mes frères et sœurs, quand Dieu dit quelque chose, faisons-le. Vous êtes d'accord? Est-ce que je dois pardonner? Ça fait 10 fois qu'il me casse les pieds. Franchement, il exagère. C'est quoi faire ce qui est juste? Pardonner ou pas pardonner? Moi, j'ai entendu, ah non, moi c'est fini, j'en ai marre. Ça fait 20 fois, c'est qui refait le même truc, il m'énerve, je ne pardonne plus. Mais ça, ce n'est pas la justice. Vous comprenez ce que je veux dire? La justice, c'est je pardonne tout le temps. C'est facile, c'est pas facile. Un jour, on est plus ou moins bien disposé, je pardonne. Parce que le jour où Pierre, justement, a demandé à Jésus, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce 7 fois? Parce que les pharisiens, ils avaient leur petit agenda avec leur liste d'interdictions et leur liste de commandements. Et lui pensait bien faire. Quand on parle comme ça au Seigneur, c'est qu'on pensait bien faire. Il pensait que c'était bien. Sera-ce 7 fois? Et Jésus va lui dire, tu veux un chiffre? Mais je t'en donne un. Tu pardonneras 490 fois. Et j'imagine la tête de Pierre. Qu'est-ce que ça veut dire?
490 fois par jour pardonner quelqu'un. Si vous dormez 8 heures, ça fait 2 fois par minute. Vous calculerez. Mes frères et sœurs, ça veut dire que le pardon, il doit être continuel. C'est ça être juste. Le Seigneur, il ne nous a pas pardonné. Il ne pardonne pas toutes nos iniquités. Il pardonne toutes nos iniquités. Est-ce que c'est écrit que tout péché, tout blasphème sera pardonné? Oui, c'est écrit. Et nous devons être à l'image du Seigneur. Ce qui est juste. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il faut lire la Bible avec sérieux. Ce qui est juste. Vous avez vu la conséquence? Et le Dieu de paix sera avec vous. Il y a des chrétiens, vous savez, quand on... Moi, je ne veux pas juger. C'est vrai que... Mais des fois, il faut en parler quand même. Il y a des chrétiens, on se demande si Dieu est avec eux. Ils ont tellement attristé le Saint-Esprit. Ils ont refusé de pardonner. Ils ont refusé d'obéir. Mais bien sûr qu'ils peuvent dire, Seigneur, tu es avec moi. Oui, en plus, on pourrait rien dire parce que c'est vrai quelque part. Mais Dieu n'agit pas dans leur vie. Vous n'avez pas envie que Dieu agisse dans votre vie? Franchement, vous n'avez pas envie d'avoir cette assurance? Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. C'est écrit dans le Proverbe 28. Vous pourrez le lire. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Car regardez, Paul avait de l'assurance. Il n'a pas dit, ah, silence, écoute, maintenant, il y en a marre, il y en a assez. Partout on va, on se fait taper dessus. Moi, j'envoie un mail là, à l'action missionnaire, je rentre. Non, il a loué Dieu. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être qu'on ne peut pas vous aider. Peut-être qu'on va vous donner de mauvais conseils. Ce n'est pas toujours facile. Mais mes frères et sœurs, si vous vivez ces choses, si vous vous dites, moi, je veux me réjouir, je veux le faire. Si vous dites, moi, il y en a marre. Moi, vous savez, j'en suis venu, ce n'est pas bien ce que je veux dire. J'en suis venu à remettre en question la conversion de certains chrétiens. Je lisais encore dans un sondage qui a été fait en France cette fois-ci, que 60% des chrétiens de Pentecôte, ça m'a fait peur, hein, ça m'a fait mal au cœur, 60% des chrétiens de Pentecôte, hein, pas des protestants, ne sont pas convertis. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est des sondages. Mais vous avouerez que c'est quand même inquiétant. Un chrétien qui est converti, ce n'est pas un chrétien qui est repenti. C'est un chrétien qui est repenti et qui a accepté de pratiquer la justice. Dieu a dit ça, je le fais. Que tout ce qui est juste, on pourrait continuer. Tout ce qui est pur, ah, la pureté. C'est important la sainteté dans l'Église? Eh bien oui, c'est même pas la peine d'en parler. Ça, la sanctification, on ne verra pas le Seigneur. Que tout ce qui est aimable, tiens aimable. Est-ce que c'est important d'être aimable avec les autres? Ah, tu comprends, aujourd'hui ça ne va pas, alors écoute, tu le comprends, hein? Ah ouais? C'est comme ça qu'il faut faire? Au moins qu'on ait la délicatesse, si on a été désagréable, dire je te demande pardon pour t'avoir parlé comme ça. C'est déjà être aimable. Il y a des chrétiens qui ne demandent jamais pardon. Parce qu'ils partent du principe où c'est normal d'être mal luné. Mes frères et sœurs, que tout ce qui est aimable, ce sont des choses, elles sont humaines. Oui, il y a le spirituel, mais il y a l'humain aussi. Oui ou non? Il n'y a pas que le spirituel, il y a toutes les relations humaines. Oui, la pureté, c'est lié à la spiritualité. Le fait d'être aimable, c'est lié à l'humain. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'est plus humain. Ce qui est aimable. On n'a pas le temps, on va vite les survoler. Tout ce qui mérite l'approbation. Tiens, ce que je fais, c'est bien. J'aide ma femme. Est-ce que c'est bien d'aider ma femme, sa femme? Est-ce que vous aimez, les maris, là, est-ce que vous aimez votre femme? Est-ce que vous aidez votre femme? Ne répondez pas tous, parce que je ne voudrais pas... Est-ce que vous aimez votre femme? Moi, vous savez avec qui je me suis rendu ami? Vous savez qui c'est mon ami? Dans la maison? Le fer à repasser. Vous rigolez? Il y a quelques années, on était ici à Saint-Agne. Je vous l'ai dit, jadis. Je revenais, j'avais envie d'acheter des fleurs à ma femme. Et quand je suis rentré, j'écoute Isabelle, j'avais vraiment envie de t'acheter des fleurs. Mais vraiment, j'avais envie. Vous savez que je n'avais pas de sous, donc je n'ai pas pu les voler. Donc, je n'ai pas acheté de fleurs. Elle me dit, tu voulais m'acheter des fleurs? Mais moi, les fleurs, ça m'est égal. Par contre, je préférerais que tu me fasses une heure de repassage par semaine. Et j'ai compris, parce que bon, avec 4 enfants, surtout comme Lucas, et toutes les semaines... si c'est pas vrai, dis-le. Toutes les semaines, je fais une heure, le refaire repasser. C'est vrai qu'au début, on n'était pas copains. Mais je le fais parce que je l'aime. Et je sais que c'est bien. J'ai pas honte de faire une heure de repassage. En plus, maintenant, je repasse bien. Il y a des choses qui amènent l'approbation dans une église. Moi, si vous saviez comment je me réjouis, ça fait 17 ans que je suis là. Ça fait 17 ans que j'ai souvent pleuré de joie après un conseil d'administration. C'est vrai, c'est la vérité. Parce qu'il y a des choses, je sais qu'elles ont l'approbation du conseil et de Dieu. Il y a des choses qui plaisent à Dieu. Vous savez, toutes les fois que je vous dis, tiens, on a envoyé 4 000 euros à un pasteur pour acheter une voiture, ça plaît à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses qui méritent l'approbation. Il faut les rechercher. Parlez-en à vos amis, à votre épouse. Moi, je pense que dans un foyer, quand même, moi, je sais que mes enfants, franchement, mes enfants, même petits, m'ont beaucoup aidé à comprendre certaines choses. Mon épouse, un pasteur, je m'appelle Monsieur Christian, le nombre de conseils qu'il m'a donné, et je sais que ça m'a aidé à comprendre ce que ça voulait dire, les choses qui méritent l'approbation. Ce qui est vertueux est digne de louange, mais il faut que ça commence dans nos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Mes frères et sœurs, sérieusement, j'ai presque envie de vous dire quelque chose, que je nous mets au défi. Mettons ces choses en pratique. C'est Paul qui dit, mais ce que vous avez vu, vous l'avez vu, c'est sûr que quand on discutait avec l'apôtre Paul, ça devait être quand même quelque chose. Il dit, ce que vous avez vu à moi, ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu de moi, tout ça c'était bien. Mais il ne s'arrête pas là, il dit, mais pratique-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Et vous savez, dans les moments difficiles, quand vous voyez Dieu intervenir, je vous assure que ça fait du bien. Je vous ai déjà raconté cette épreuve que j'ai traversée. Ça allait, je vais le résumer, mais c'est pour vous dire que, à des moments, vous savez que Dieu agit. C'était en Polynésie, et ça allait vraiment mal, intérieurement. Quand je vous dis que j'étais découragé, le mot il est vraiment faible, c'est j'étais désespéré. Je suppliais Dieu qu'il me reprenne tous les jours, matin, soir, la nuit, je ne dormais plus. J'étais malheureux comme tout. Et un jour, à minuit, on m'appelle. On m'appelle pour aller prier pour une femme qui était possédée. Je descends, je veux prendre ma voiture. Ma voiture est en... Il n'y a pas d'essence. La voiture à ma femme, pas d'essence. J'appelle le stagiaire, il me dit, j'ai pas d'essence. Il ne savait rien, on y va quand même. Il n'y avait pas d'essence, il fallait faire 30 ou 40 kilomètres. Je savais qu'on n'arriverait jamais, c'était sur la réserve, en bas de la réserve. J'ai dit, ça ne fait rien. On y va quand même. Et le stagiaire me dit, mais pasteur, il y a une station ouverte à Tipperary, là-bas, tu verras, c'est ouvert, à minuit, c'est ouvert. On arrive, la station était fermée. Et il me dit, regarde. Vous savez que Dieu est avec vous. Et la jauge de la voiture se remplissait. Vous savez, elle était sur le rouge, et la jauge est montée. Non, dans l'autre sens, je me rappelle, elle fait une porte. Et le pasteur, le sagier, il me dit, pasteur, tu vois? Oui, je vois. Et moi, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et quand j'ai dit, c'est pas possible, ou de la quatrième fois, l'aiguille commence à redescendre. C'est pas possible. Et elle arrive, elle est presque au milieu. Si, c'est possible. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et vous savez, j'étais pas bien. Mais quand on vit certaines choses, même si ça ne va pas, vous vérifierez que ce n'est pas des blagues. Si Dieu, avec tant de sollicitude, par un homme qui est en prison, nous parle depuis 2000 ans, et la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence gardera votre ciboulot. Et le Dieu de paix sera avec vous. C'est vrai, mes frères et sœurs. Et même si tout va mal, et si tout va aller de plus en plus mal, à tel point que beaucoup de chrétiens vont vérifier Apocalypse chapitre 6, beaucoup de chrétiens vont le vérifier. Parce qu'ils n'auront pas pris au sérieux ces choses. Donc ils n'auront pas la paix, et comme ils n'ont pas la paix, ils vont la chercher ailleurs, ils vont rétrograder, et à quoi ça sert que j'aille à l'église? Mais voilà. Si vous parlez comme ça, vous êtes en train de rétrograder. Écoutez-moi bien. Si vous faites partie de ces gens, voilà à quoi ça sert d'aller à l'église, vous êtes déjà rétrograde. Et quand l'église sera levée, vous vérifierez Apocalypse, chapitre 6, ce que c'est quand il n'y aura plus de paix sur la terre. Mais aujourd'hui, Jésus est assis sur le trône de la grâce. Alléluia. Ça veut dire que n'importe quel être humain peut obtenir la grâce, maintenant. Et que n'importe quel chrétien peut dire, ces choses-là, je les prends au sérieux. Je lis parce qu'on nous demande de lire. Il y a un chrétien un jour qui me dit, moi je lis la Bible parce que j'ai peur que vous me demandiez le dimanche matin si j'ai lu la Bible la semaine. Je dis, si c'est pour ça, ne lisez pas. Non mais voyez un petit peu le degré de maturité spirituelle. Mes frères et sœurs, ces choses-là, vous pouvez les vérifier. Dès aujourd'hui, je vais me réjouir dans le Seigneur. Pas en écoutant David Pujadas. Je vais me réjouir en écoutant les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Je vais ne plus m'inquiéter. Je vais vivre ces choses. Et mes pensées, je vais les contrôler. Je vais amener mes pensées captives. Et vous verrez, vous vérifierez que ce n'est pas pour les meilleurs. Il n'y a pas de meilleurs dans l'Église d'ailleurs. C'est pour tout le monde. Et le Dieu de paix sera avec vous. Il y a quelqu'un qui veut le vivre dans la semaine? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Moi, je veux le vivre encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, moi, je veux vivre ces choses? Dieu vous voit. Dieu vous voit. C'est sérieux, vous savez, Dieu le voit. Que vous leviez la main ou pas, mais que si vous répondez. Et si vous lisez cette épître et que vous captez sur ce qu'on a lu, et vous dites, mais moi, je vais le faire. Je vais rechercher ce qui mérite l'approbation. Je vais rechercher ce qui est aimable. Je vais rechercher ce qui est vertueux. Je vais rechercher ce qui est bon. Ce qui est juste. Et je vais le vivre. Eh bien, vous le verrez, ferez. Vous direz, voilà, Dieu est avec moi. Vous le verrez. De toute façon, c'est imparable. Alors, prions le Seigneur quelques instants. Demandons-lui cette grâce, mes frères et sœurs. Demandons-lui. Recueillez-vous. Fermons nos yeux quelques instants. Je ne sais pas comment vous avez reçu cette prédication. Je ne sais pas comment vous allez faire. Mais vous comprenez bien que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mes frères et sœurs, je m'adresse à ceux qui perdent régulièrement la paix, à ceux qui reviennent toujours dans l'inquiétude, à ceux qui n'arrivent pas à se réjouir, à ceux qui n'arrivent pas à saisir combien Dieu aime la justice. Je répète, pas la justification, c'est clair que ça vient de lui. La justice, ça vient de nous. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mes frères et sœurs, soyons sérieux. Je ne sais pas où vous en êtes, Dieu sait où vous en êtes. Et c'est quelqu'un qui voudra dire amen à ma prière et dire, Seigneur, je vais le vivre. Et je témoignerai dans quelques semaines de la réalité de la parole. Oui, ta parole est la vérité. Prions quelques instants. Notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, non seulement tu as donné ta vie au calvaire, en Jésus-Christ, pour que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés, mais tu nous donnes ta paix, tu nous laisses ta paix. Dans ce monde qui en est dépourvu, dans ce monde qui a attiré ta colère, quelle grâce de savoir que tu es notre refuge, que ta paix peut nous accompagner tous les jours. Seigneur, que ta bonté repose sur mes frères et sœurs. Donne-leur d'être fermes. Donne-nous, Seigneur, donne-nous d'être fermes dans nos sentiments, que nos pensées soient maîtrisées par ta parole. Oui, Jésus, nous voulons amener toutes nos pensées captives à l'obéissance. Je te prie pour celui qui est fatigué, découragé, dans la défaite, dans le découragement, peut-être en train de rétrograder. Accorde-lui la grâce, puisque ce matin, il est quand même venu dans ta maison. Accorde-lui la grâce de vivre ces choses, afin que non seulement ta paix, mais toi, le Dieu de paix, tu sois avec nous. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.